Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons maintenant le chapitre 13 de Saint Jean, la Passion, qui est très développée dans Saint Jean, puisque il va y avoir 13, 14, 15, 16, 17 comme préparation, c'est ce qu'on appelle le discours après la scène. Et tout ce qui s'est passé au jeudi saint au soir, puis ensuite 18, 19, chapitre 18 et 19, la passion elle-même, avec le chemin de croix, la mise à mort de notre Seigneur, et enfin 21, 20 et 21, les deux derniers chapitres sur la résurrection de notre Seigneur. Nous allons commencer le chapitre 13 sur le polycopier qui contient des textes des pères de l'Église pour les chapitres 11 à 15, nous en sommes à la page 19, en haut de la page. Voilà le texte qui commence avec le chapitre 13, donc de Saint Jean, versets 1 à 5. Avant la fête de Pâques, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, Jésus, après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et après le souper, le diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le trahir, Jésus, sachant que le Père avait remis toutes choses en ses mains et qu'il était sorti de Dieu et qu'il retournait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, ayant pris un linge, il s'en ceignit. Puis il versa de l'eau dans un bassin, commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Donc, il faut faire très attention, je vous l'ai souvent déjà dit dans d'autres circonstances, soit dans ce cours, soit dans les sermons, que la fête de Pâques, la Pâque, plus exactement la passion de notre Seigneur, ne doit pas être considérée simplement comme quelque chose d'historique qui s'est passé il y a 2000 ans. Non, c'est quelque chose qui se continue sur la terre. C'est bien pour cela que la messe est le renouvellement du sacrifice de la croix, un renouvellement actuel. Pourquoi est-ce que la passion doit se renouveler constamment sur l'autel? Parce que le péché des hommes se renouvelle. La cause efficiente de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui a provoqué la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le péché des hommes. Donc, là, il faut actualiser la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et pas simplement considérer ça comme quelque chose de passé. Savez que le mot Pâques, verset 1, on parle de la fête de Pâques, la plus grande fête des Juifs, commémorait la sortie d'Égypte. Les Juifs étaient maintenus en esclavage en Égypte et Dieu a suscité Moïse pour faire sortir le peuple juif du royaume d'Égypte. Il va le faire pérégriner pendant 40 ans dans le désert à cause des révoltes constantes du peuple juif contre Dieu, en fait, et contre Moïse. Et ce fut ensuite l'arrivée en terre promise, en terre de Palestine. Donc le mot Pâques représente, veut dire le mot passage. Il est intéressant de voir qu'en grec, je n'ai pas fait de grec, mais que l'étymologie du grec, du mot Pâques et du mot souffrir cette étymologie est la même. Le mot grec qui signifie souffrir est pratiquement le même que celui qui traduit le mot Pâques, donc le mot passage. Donc le passage dont il est question ici, c'est la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Cette sortie d'Égypte du peuple hébreu représente une autre sortie, donc un autre passage, à savoir la sortie du péché à la vertu. L'homme qui est dans le péché jusqu'au cou est esclave du démon, comme les Hébreux étaient esclaves des Égyptiens. Il faut se libérer de cet esclavage, et c'est ce que Moïse va faire en prenant le peuple et en le faisant sortir d'Égypte. Faisant traverser la mer Rouge, symbole du baptême, pour l'emmener vers la terre promise. Donc nous aussi, nous devons avoir ce passage, c'est-à-dire sortir d'un état de péché, d'un état de révolte contre notre Seigneur Jésus-Christ, d'un état d'esclavage du démon, pour passer volontairement sous une autre autorité, à savoir l'autorité de Dieu. Et ceci ne peut se faire sans la souffrance. Voilà pourquoi le mot souffrir, le mot Pâques a été considéré, pardon, comme synonyme de passion. Patere en latin, c'est la souffrance. Donc, la passion, ça veut dire la souffrance. Le mot Pâques n'est pas un mot grec. C'est un mot hébreu, disent les pères. Je crois que c'est Saint Jérôme qui explique ça. Cependant, ce mot a dans les deux langues un rapport frappant d'analogie. Souffrir a été considéré comme synonyme de passion. Et c'est aussi la signification du mot Pâques, qui tire de là son étymologie. Dans sa langue propre, au contraire, c'est dans l'hébreu, le mot Pâques signifie passage. Et la raison de ce nom, c'est que le peuple de Dieu a célébré pour la première fois cette fête lorsqu'il s'est enfui de l'Égypte et qu'il eut traversé la mer Rouge. Lorsque, après s'être enfui d'Égypte, il eut traversé la mer Rouge. Une faute de frappe qu'il faut que je corrige. Donc, il y a un lien entre ces trois mots, passage, passion, souffrance. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ, qui est innocent, a voulu souffrir, justement, c'est la volonté de Dieu le Père que son Fils, Dieu le Fils, souffrit la passion, il est évident que nous devons participer à cette passion. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ, qui est innocent, a voulu souffrir pour nous, nous qui sommes coupables, nous devons évidemment participer à cette souffrance. Encore une fois, il faut se placer dans la passion et considérer que la passion est quelque chose pour tous les jours. Donc, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est flagellé, notre Seigneur Jésus-Christ est couronné d'épines, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est crucifié, il faut comprendre que c'est chacun d'entre nous qui renouvelons cette passion, qui tenons le fouet, le marteau d'entre les mains pour flageller, crucifier notre Seigneur par le péché. Rappelez-vous la phrase très belle de Saint Jean-Marie Vianney, le patron de tous les curés, qui disait qu'à chaque fois que je commets une faute grave, je recrucifie notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de mon âme. Alors, c'est très bien expliqué dans ce le deuxième paragraphe, donc page 19. Cette figure prophétique a trouvé son accomplissement véritable lorsque Jésus-Christ a été conduit comme une brebis à la mort. C'est alors que la vertu de son sang, que par la vertu de son sang, qui a marqué les poteaux de nos portes, c'est-à-dire par la vertu du signe de la croix empreinte sur nos fronts, nous avons été délivrés de la servitude de ce monde, comme de la captivité d'Égypte, et nous accomplissons de nouveau ce passage salutaire lorsque nous passons du démon à Jésus-Christ et de ce monde inconstant dans le royaume dont les fondements sont inébranlables. Il y a tout dans ce texte. Alors, quels sont les poteau de nos portes, que signifie cette phrase. La vertu du sang du Christ qui a marqué les poteaux de nos portes. Ben, ceci fait une allusion très nette à un passage de l'Ancien Testament, au moment où les Hébreux ont quitté l'Égypte. Le Pharaon ne voulait pas laisser partir les Égyptiens, les Hébreux, pardon, parce qu'il les mettait dans l'esclavage et qu'il avait besoin de ses esclaves, très nombreux, pour fabriquer les briques qu'ils utilisaient pour leur construction. Donc il fallait garder impérativement ces esclaves sous contrôle et les garder en Égypte pour qu'ils puissent continuer à faire ce travail. Et pour obtenir qu'enfin le roi d'Égypte, le pharaon, laisse partir le peuple hébreu, Dieu a envoyé un ange exterminateur pour tuer le premier-né de toutes les familles d'Égypte. Mais pour protéger les familles d'Hébreux, Dieu avait aussi demandé par Moïse à ce que chaque famille juive prit un agneau, le sacrifia, sépara le sang donc du corps de l'agneau, puisqu'il y a sacrifice, il faut qu'il y ait mort et séparation entre le corps et le sang, sinon il n'y a pas sacrifice. Et avec ce sang, il a demandé à ce que le chef de famille badigeonnât le pourtour de la porte d'entrée, les poteaux de chaque côté de la porte d'entrée de la maison. Et ce sang de l'agneau protégerait la maison de l'attaque de l'ange exterminateur. Pourquoi? Parce que l'ange exterminateur, en voyant ce sang sur le pourtour de la porte d'entrée, ça aurait su que cette maison est une maison d'Hébreu et donc ne serait pas rentré pour tuer le premier-né de cette famille. C'est évident que ce sang qui protège les familles hébraïques était le symbole du sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous protège de l'introduction du démon dans nos âmes. Le démon cherche à rentrer dans nos âmes pour tuer nos âmes et donc le sang de notre Seigneur Jésus-Christ que nous recevons par la Sainte Eucharistie, protège cette âme des attaques du démon. Mais il y a une condition pour cela, c'est que nous, pour pouvoir, si vous voulez, utiliser la vertu du signe de la croix, emprunt sur nos fronts, rappelez-vous qu'au baptême, à la confirmation, notre front a été marqué du signe de la croix, il faut que nous soyons délivrés de la servitude du monde, comme les Hébreux ont été délivrés de la captivité d'Égypte. Et donc il nous faut passer du démon à Jésus-Christ, du monde qui change au royaume qui ne change pas. Donc pour pouvoir utiliser le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, donc les fruits de la passion, il est impératif de changer de vie, de quitter la vie de péché pour pouvoir se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Je répète cette phrase qui est très belle, c'est par la mort, la vertu de son sang qui a marqué les poteaux de nos portes, c'est-à-dire par la vertu du signe de la croix empreinte sur nos fronts, nous avons été délivrés de la servitude de ce monde comme de la captivité de l'Égypte. Et nous accomplissons de nouveau ce passage salutaire lorsque nous passons du démon à Jésus-Christ, de ce monde inconstant dans le royaume dont les fondements sont inébranlables. On est donc délivré ainsi de la servitude de ce monde. N'oubliez pas que le mot servitude vient du mot servus en latin, et servus, c'est l'esclave. Donc nous sommes maintenus par le démon comme esclaves du monde. Le monde nous maintient dans l'esclavage. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se coupe de ce servage, de cette servitude, la servitude dans laquelle le monde le maintient. Et comment est-ce que le monde nous maintient dans l'inservitude? Le monde nous maintient dans l'inservitude par les trois concupiscences. Concupiscence des yeux, le désir de tout avoir, tout posséder. Concupiscence de la chair, tous les péchés d'impureté. Et concupiscence de l'orgueil. Il faut donc que nous utilisions le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui abreuve nos âmes par la Sainte Eucharistie, afin d'obtenir les vertus dont nous avons besoin pour lutter contre ces trois concupiscences. Trois vertus essentiellement, la vertu de pauvreté contre la concupiscence des yeux, la vertu de chasteté contre la concupiscence de la chair, et la vertu d'obéissance contre la concupiscence de l'orgueil. La plus importante étant la troisième. Concupiscence de l'orgueil est certainement celle qui est la plus dangereuse, qui nous coupe le plus de notre Seigneur Jésus-Christ. On le voit très bien dans le monde moderne. Le monde moderne est maintenu dans l'esclavage par l'orgueil, d'abord par l'orgueil. Et cet orgueil va entraîner la concupiscence des yeux et la concupiscence de la chair. Il n'y a que ceux qui usurpent injustement les honneurs, qui refusent de s'abaisser dans la crainte de perdre les dignités dont ils se sont emparés sans aucun droit. Il y a une phrase qui n'est pas très claire en français. Il faut que je reprenne un peu cette traduction. Il n'y a que ceux qui usurpent injustement les honneurs, qui refusent de s'abaisser dans la crainte. Il n'y a que ceux qui refusent de quitter les concupiscences dont ils se sont emparés, qui ne peuvent jouir, si vous voulez, de ce que donne ce sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tant que je reste dans les trois concupiscences, de la chair, des yeux et de l'orgueil, eh bien, je ne peux pas suivre les Hébreux qui quittent l'esclavage. Donc je reste esclave du démon. Alors, l'Évangile nous parle d'un souper. Au verset 2, après le souper, donc, Origène a quelque chose à dire justement sur le sens allégorique de ce mot souper ou dîner. Le dîner qui est le premier repas, il fait une distinction entre le souper et le dîner. Le dîner étant le premier repas et le souper le dernier repas de la journée. Le dîner qui est le premier repas était servi à ceux qui ne sont encore qu'initiés avant qu'ils soient arrivés au terme du jour spirituel qui s'accomplit dans cette vie, tandis que le souper est le dernier repas, celui qu'on sert à ceux qui ont atteint une perfection plus grande. Donc Dieu peut donner au souper un enseignement qu'il ne pouvait pas encore donner au dîner, parce que les gens qui dînent, c'est le premier repas de la journée, c'est le symbole de la vie, des commençants dans la vie spirituelle, ils ne sont pas encore capables de prendre une nourriture plus forte, une nourriture d'adulte. Donc comme le dit saint Paul, au lieu de donner de la nourriture solide à un enfant, on donne de la nourriture déjà pré-mâchée, littéralement de la purée par exemple, ou des choses molles que l'enfant peut avaler facilement. Puis, lorsqu'il grandit, il peut commencer à apprendre à mâcher correctement, et donc son estomac sera capable de prendre de la nourriture plus forte. Et ici, c'est la même chose. Donc, Origène va expliquer, on peut encore dire que le dîner, c'est l'intelligence des Écritures anciennes de l'Ancien Testament, tandis que le souper, c'est la connaissance des mystères cachés dans le Nouveau Testament. Donc l'Ancien Testament est au dîner, ce que le Nouveau Testament est au souper. Je pense que ceux qui doivent prendre ce dernier repas avec Jésus et s'asseoir à la même table au dernier jour de cette vie ont besoin d'être purifiés, non point dans les parties les plus élevées du corps et de l'âme, mais dans les vertus extrêmes et qui sont en contact nécessaire avec la terre. Ces parties extrêmes sont les pieds. Les pieds étant en contact avec le monde, donc Dieu va laver les pieds des disciples. C'est aussi bien sûr le symbole de la vertu d'humilité. Il se lève de table, ôte ses vêtements, prend un linge, sans sein, puis il verse de l'eau dans un bassin, commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Et donc il y a tout un symbole, là on voit très bien la nécessité de l'humilité. Et Saint-Pierre va se rebiffer, refuser d'être au moins au début, d'être lavé, d'avoir ses pieds lavés par notre Seigneur Jésus-Christ. Il pense qu'il est indigne de ça. Et notre Seigneur lui explique, si je ne te lave pas les pieds, ben, tu ne posséderas pas le royaume des cieux. Et donc, cette humilité est donc nécessaire pour s'introduire dans la passion. C'est pour ça que l'homme moderne est incapable de comprendre la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, donc incapable de comprendre le sacrifice de la messe. Puisque le sacrifice de la messe, c'est le renouvellement de la passion, il est incapable de comprendre le sacrifice de la messe à cause de son orgueil. Il faut d'abord s'humilier pour ouvrir les portes qui nous amènent au pied de la croix. L'évangéliste raconte qu'il commença donc à laver les pieds de ses disciples, car il acheva plus tard cette opération, parce que les pieds des apôtres avaient été salis selon cette parole. Vous serez tous scandalisés cette nuit. À mon occasion. Il acheva ensuite ce lavement des pieds en donnant à ses apôtres une pureté qu'ils ne devaient plus perdre. Donc la pureté extérieure est le symbole de la pureté intérieure. De même qu'il faut enlever la poussière de ses pieds afin d'avoir les pieds propres, de la même façon, il faut enlever la poussière qui est sur nos âmes pour avoir une âme propre. La poussière qui est sur nos âmes, c'est évidemment la poussière du péché. Au texte de saint Augustin, il a déposé ses vêtements lorsqu'il s'est anéanti lui-même. Donc c'est clair dans au verset 4 de ce chapitre 13 de saint Jean, notre Seigneur ôte ses vêtements avant de prendre un bassin et de laver les pieds du disciple. Il a déposé ses vêtements lorsqu'il s'est anéanti lui-même, lui qui était Dieu. Il s'est ceint d'un linge lorsqu'il a pris la forme de serviteur. Il a versé de l'eau dans un bassin pour laver les pieds de ses disciples. Lorsqu'il a versé son sang sur la terre pour laver toutes les souillures de nos péchés. Il a essuyé leurs pieds avec le linge dont il était saint, lorsqu'il a fermé les pas des évangélistes dans la chair mortelle dont il s'était revêtu. Avant de se ceindre avec le linge, il quitta les habits dont il était revêtu, et pour prendre la forme d'esclave dans laquelle il s'est anéanti, il n'a point quitté ce qu'il avait, il a pris simplement ce qu'il n'avait pas. Lorsqu'il fut crucifié, il fut dépouillé de ses vêtements, et après sa mort, son corps fut enveloppé dans un linceul, et sa passion tout entière a pour fin de nous purifier. C'est un texte magnifique qui donne justement le sens mystique de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc premièrement, notre Seigneur dépose ses vêtements. Donc ça, c'est la vertu d'humilité. Il devient comme un ver de terre, dit le prophète David. Il devient comme un ver de terre, il s'anéantit lui-même, lui qui était Dieu. Il va se recouvrir de l'humanité sans perdre sa divinité. Il s'est ceint d'un linge lorsqu'il a pris la forme de serviteur. La ceinture qui est autour de la taille, autour des reins, est le symbole de la vertu de pureté. C'est pour ça que le prêtre a autour de la taille une ceinture qui est le symbole de la nécessité de la pureté, donc la lutte contre tous les péchés d'impureté et la pratique de la vertu de chasteté. Je vous rappelle que le col romain est le symbole de l'obéissance, c'est l'anneau de l'esclave. La soutane, par sa simplicité de forme et par sa couleur noire, est le symbole de la pauvreté. Et la ceinture est le symbole de la chasteté. Donc, celui qui, dans l'ancien temps, lavait les pieds des autres était l'esclave. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ prend la forme de serviteur, devient esclave pour nous servir et mourir pour nous sur la croix. Il a versé de l'eau dans un bassin pour laver les pieds de ses disciples lorsqu'il a versé son sang sur la terre pour laver toutes les souillures de nos péchés. Donc, le lavement des pieds, le symbole du sacrement de pénitence. La pénitence, lorsque je me mets à genoux au confessionnal pour demander pardon pour mes péchés, je commence par la formule « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché ». C'est le symbole justement de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'agenouille devant ses apôtres pour leur laver les pieds. Donc il a essuyé les pieds avec le linge dont il était saint lorsqu'il a fermé les pas des évangélistes par la chair mortelle. Donc il était revêtu. De même que notre Seigneur Jésus-Christ a pris un linge pour s'en ceindre, si vous voulez, cette action représente le mystère de l'incarnation. Donc la chair mortelle dont il était revêtu, c'est la chair humaine. Notre Seigneur Jésus-Christ, sans cesser d'être Dieu, est devenu homme. Avant de se ceindre avec le linge, il quitta les habits dont il s'était revêtu. Donc c'est encore une fois le symbole encore de l'éloignement du péché avant de pouvoir avoir mes pieds lavés par l'eau de la grâce sanctifiante, la grâce du sacrement de pénitence. Je dois quitter les habits du monde, quitter les choses mondaines, quitter les occasions prochaines volontaires de péché grave. Tant que je garde des occasions prochaines volontaires de péché grave, il est évident que je ne peux pas, en aucun cas, m'agenouiller au confessionnal pour demander pardon de mes péchés, parce que je reste dans une situation de péché. Et pour prendre la forme d'esclave dans laquelle il s'est anéanti, il n'a point quitté ce qu'il était, il a pris simplement seulement ce qu'il n'avait pas. Qu'est-ce qu'il n'avait pas ? Il n'avait pas la nature humaine. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, par le mystère de l'incarnation, va unir la vertu, la nature divine, qui était la sienne, puisqu'il est deuxième personne de la Sainte Trinité, et va unir cette nature divine avec la nature humaine dans la même personne. Donc unité de personne et dualité de nature. Il est homme pour souffrir, il est Dieu pour nous sauver. Lorsqu'il fut crucifié, il fut dépouillé de ses vêtements et après sa mort, son corps fut enveloppé dans un linceul et sa passion tout entière a pour fin de nous purifier. Donc ce linceul qui va recevoir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ par sa couleur blanche, sa caractère immaculé, c'était un linceul neuf qui n'avait jamais été utilisé pour un autre cadavre et le symbole, si vous voulez, de la grâce sanctifiante qui rend à notre âme une candeur, une blancheur, une propreté, une pureté qu'elle avait perdue avec le péché. Vous voyez, c'est des textes magnifiques, je ne sais pas qui, j'ai pas noté le... Oui, c'est Saint Augustin, texte magnifique de Saint Augustin. Donc, je vous conseille beaucoup pour ceux qui écoutent, qui m'écoutent sur Internet. S'il y en a, je ne sais pas combien de personnes écoutent ces cours. Eh bien, je vous conseille beaucoup dans ces passages-là, à partir du chapitre 13, de relire bien soigneusement tout le texte de la Passion. Vous pouvez très bien, ceux qui veulent un peu méditer sur ces textes magnifiques des Pères, de relire les quatre Passions au fur et à mesure que j'avance. Dans ses explications, la Passion selon saint Jean, rien ne vous empêche de lire la Passion selon saint Luc, saint Marc et saint Matthieu. Alors, l'eau qui était dans le bassin, il versa de l'eau dans un bassin, dit le verset 5. Cette eau était la rosée divine avec laquelle le Seigneur lava les pieds de ses disciples. Donc cette eau est le symbole de la grâce sanctifiante. Le linge dont il se saignait est celui qui va mettre bientôt sur notre corps. Il va se mettre à nous, à nu, pour nous revêtir du vêtement de sa miséricorde et de son immortalité. Donc le linge n'est pas simplement le symbole de l'incarnation, c'est aussi le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ qui, par son incarnation, va nous revêtir de sa miséricorde, de son immortalité. Nous avons participé à l'immortalité de notre Seigneur Jésus-Christ par le sacrement de pénitence, puis ensuite par le sacrement de la Sainte Eucharistie. Qu'il me lave donc des pieds à la tête, mon esprit, ma faiblesse, pour que je puisse dire, j'ai enlevé mon vêtement pendant la nuit, comment le remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment vais-je les souiller? Nous pensons à tout ça lorsque nous confessons, notre Seigneur Jésus-Christ se met à genoux devant nous, lave nos pieds avec sa grâce sanctifiante. Il est évident qu'une fois que j'ai eu les pieds lavés par la grâce sanctifiante, eh bien je dois faire très attention à ne pas les salir de nouveau. Si je me aussitôt lavé, je retourne dans la poussière du monde, dans la poussière du péché, eh bien, il est évident qu'à ce moment-là, je prouverai que je n'ai pas un amour véritable pour mon divin maître. Donc, ces passages-là sont splendides. On avance versets 6 à 11 du chapitre 13 de saint Jean. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Vous, Seigneur, vous me lavez les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, vous ne le savez pas maintenant, mais vous le saurez plus tard. » Jésus lui dit, « Vous ne me laverez jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne vous lave, vous n'aurez point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a plus besoin que de se laver les pieds, car il est pur tout entier. Vous êtes purs, mais non pas tous, car il savait quel était celui qui le trahirait. » C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Judas se prépare à livrer notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Judas notre Seigneur va lui laver les pieds, va le ordonner prêtre, le consacrer évêque. Et malgré cela, Judas va trahir son maître. Et c'est ce que je fais chaque fois que je commets un péché. Notre Seigneur Jésus-Christ m'a lavé les pieds par le sang, la grâce du baptême. Il m'a lavé les pieds par les absolutions que j'ai reçues par la confession. Il m'a lavé les pieds à chaque fois que je communie. Pourtant, malheureusement, dans ma propre faiblesse, je continue d'offenser notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, voyons un petit peu les commentaires des pères, donc en bas de la page 20. Un texte d'Origène. Origène est certainement un des plus grands théologiens, des plus grands exégètes que la Terre ait jamais connu. C'était certainement les premiers siècles de l'Église, le père de l'Église qui était le plus utilisé en matière d'exégèse. Vous savez qu'Origène n'est pas canonisé. Il y a deux grands grands-pères de l'Église qui ne sont pas canonisés, Tertullien et Origène, parce que Tertullien est malheureusement tombé dans une espèce de rigorisme et il est mort comme ça d'ailleurs. Et Origène avait enseigné quelques erreurs, notamment une espèce de d'exagération parfois du sens mystique. Il avait enseigné par exemple l'idée de la préexistence des âmes, qui n'a jamais été enseignée par l'Église. Donc à cause de ces erreurs, Origène n'a pas été canonisé par l'Église. Je crois aussi avoir lu quelque part qu'Origène n'a pas été canonisé par l'Église parce qu'elle s'était, elle avait compris de travers aussi l'allusion de notre Seigneur Jésus-Christ à la castration volontaire pour lutter contre les tentations d'impureté. C'était évidemment un sens, il fallait prendre ça au sens mystique et il fallait se castrer du péché, de tous les péchés d'impureté. Et je crois que qu'Origène s'était castré volontairement pour lutter contre les tentations d'impureté, ce qu'on a pas le droit de faire. On doit lutter contre les tentations d'impureté, mais on n'a pas le droit d'utiliser ce genre de méthode pour lutter contre ces tentations. Il faut lutter contre les tentations d'impureté précisément avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire avec le sacrement de la pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie et surtout la fuite des occasions prochaines volontaires de péché grave. Donc le Seigneur va nous faire comprendre que cette action cache un mystère. En effet, en lavant leurs pieds, en les essuyant, il les rendait éclatants de blancheur, comme il convenait à ceux qui devaient évangéliser la vertu. C'est une belle expression, évangéliser la vertu, c'est-à-dire promouvoir cette vertu en la prêchant au monde. C'est l'esprit apostolique de l'Église, rendre la vertu agréable aux gens pour qu'ils aient envie de s'en revêtir. Pour montrer le chemin de la sainteté, marcher par celui qui a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Oui, on retrouve la même idée. Le lavement des pieds symbolise le lavement des péchés du monde. S'éloigner des péchés du monde avant de pouvoir s'approcher de la Sainte Eucharistie. S'éloigner des péchés du monde avant de pouvoir assister à la Sainte Messe. S'éloigner des péchés du monde avant de recevoir dans notre âme le sang, le corps, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons donc. Attendez, je me trompe là. Jésus devait donc déposer ses vêtements avant de laver les pieds de ses disciples, afin de rendre plus purs encore leurs pieds qu'il était déjà, ou pour recevoir sur son propre corps les souillures de leurs pieds, en ne gardant que le linge dont il était saint, car il a lui-même porté toutes nos longueurs. Longueurs. Notre Seigneur porte sur nous le poids de nos péchés. Lui qui est innocent porte sur nous le poids de notre culpabilité. Nous devons donc présenter à Jésus les pieds, c'est-à-dire les affections de notre âme, afin que nos pieds soient éclatants de blancheur, surtout lorsque nous aspirons à des grâces plus hautes et que nous voulons être du nombre de ceux qui évangélisent les biens du ciel. Et on retrouve là la même formule, évangéliser la vertu, évangéliser les biens du monde. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de salut, donc nous devons prêcher les vertus au monde pour sortir le monde du péché. Puis un texte de saint Augustin en bas de la page 20. Il est pur tout entier à l'exception des pieds, ou si ce n'est ses pieds qu'il a besoin de laver, car l'homme dans le baptême est lavé tout entier, sans excepter même les pieds. Mais lorsque sa vie se trouve ensuite mêlée au commerce humain, il foule nécessairement la terre aux pieds. Pour ça que notre Seigneur va laver les pieds des disciples, mais pas le reste, car il est pur. Celui qui s'est baigné n'a plus besoin que de se laver les pieds, car il est pur tout entier. Donc, par le baptême, nous avons été purifiés du péché, mais par nos pieds, nous foulons le monde moderne. Nous sommes obligés, malheureusement, de vivre dans le monde moderne. Le bon Dieu ne nous demande pas de vivre comme un. Si vous voulez, au fond d'une grotte, c'est pas ce qu'il nous demande. Il nous demande d'être la lumière du monde, celle de la terre dans le monde moderne. Donc il va falloir, justement, malheureusement, être en rapport avec le monde. Et ce rapport avec ce monde est représenté par les chaussures par lesquelles je foule le monde moderne. Donc, étant en contact nécessaire avec le monde moderne, que je le veuille ou non, je vais être contaminé au moins en partie par la souillure, la saleté du monde moderne, la poussière du monde moderne. C'est pour ça que je dois laver mes pieds fréquemment, surtout avant de m'approcher de la Sainte Eucharistie. D'où la nécessité de la confession, si j'ai le malheur d'être dans le péché mortel, avant de m'approcher du corps, du sang, de l'âme et de la divinité entre Seigneur Jésus-Christ pour éviter un effroyable sacrilège. Donc, je foule nécessairement la terre aux pieds lorsque ma vie se trouve mêlée par la force des choses avec le commerce humain. Donc, le bon Dieu ne nous demande pas de ne plus avoir de contact du tout avec le monde, parce que ce n'est pas possible. Il nous demande de nous préserver des souillures du monde, ce qui n'est pas pareil. Donc, les affections du corps humain, sans lesquelles cette vie mortelle ne peut ni exister ni se concevoir, sont comme les pieds. Et les choses de la terre nous affectent et nous impressionnent à ce point que si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous trompons nous-mêmes. Mais si nous confessons nos péchés, celui qui a lavé les pieds de ses disciples nous remet nos péchés et purifie jusqu'à nos pieds par lesquels nous sommes en contact avec la terre. C'est parce que nos pieds sont en contact avec le monde que nos pieds sont souillés par le péché. La poussière sur nos pieds, j'ai déjà expliqué, la poussière sur nos pieds représente des péchés véniels. Mais il est évident que si je laisse cette poussière s'accumuler sur mes pieds, les pieds vont devenir tellement sales qu'on va laisser la porte d'entrée s'ouvrir pour les péchés mortels. Donc il faut fréquemment nettoyer nos pieds. En fait, les anciens se nettoyaient les pieds à chaque fois qu'ils rentraient à la maison. Bon, est-ce qu'ils avaient été faire une course à l'extérieur, faire quelque chose à l'extérieur, ils avaient les pieds encombrés par la poussière du monde, et donc à l'entrée dans la maison, on se lavait les pieds. C'était facile parce que les sandales qui étaient portées pouvaient s'enlever très, très, très facilement, ces espèces de babouches qui s'enlevaient facilement. On se lavait les pieds, on remettait ses chaussures pour pouvoir pénétrer dans la maison. Donc il ne faut pas simplement se laver les pieds une fois de temps en temps, il faut se laver les pieds fréquemment à chaque fois que nos pieds sont couverts de poussière. Donc dès que je tombe dans le péché, même le péché véniel, il faut penser à se confesser. La confession n'est pas simplement un caractère curatif après le péché mortel. La confession a aussi un caractère préventif pour nous aider à lutter contre le péché. Un texte d'Origène, maintenant, en bas de la page 20. Je regarde comme impossible que les extrémités de l'âme et ses parties inférieures ne contractent pas des souillures, quelle que soit la réputation de vertu et de perfection dont on jouisse aux yeux des hommes. Même le juste pêche 7 fois par jour. Donc il est absolument impossible de ne pas avoir poussière sous les pieds. Je vais me dire, mais en ce moment, M. l'abbé, ça veut dire qu'il n'est pas possible d'éviter le péché véniel. Bien, il n'est pas possible d'éviter le péché véniel sans des grâces tout à fait particulières du bon Dieu. Il faut se rappeler à ce sujet l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Vous avez cet enseignement dans la Prima Secundae, de la question 109, article 8. L'homme peut-il, sans la grâce, éviter le péché? La question que se pose saint Thomas d'Aquin. Et voilà ce qu'il répond. Dans l'état de nature intègre, même sans la grâce habituelle, c'est-à-dire la grâce sanctifiante, l'homme ne pouvait ne pas pécher, ni mortellement, ni véniellement, car pécher n'est pas autre chose que s'écarter de ce qui est conforme à la nature. Et cela, dans l'état d'intégrité, l'homme pouvait l'éviter. Il avait besoin, cependant, du secours de Dieu, le conservant dans ce bien, sans quoi la nature elle-même tomberait dans le néant. Mais dans l'état de nature corrompue, c'est-à-dire après le péché originel, l'homme, pour s'abstenir entièrement du péché, a besoin que la grâce habituelle vienne guérir la nature. Dans cet état, l'homme peut éviter le péché mortel qui relève de la raison, mais il ne peut éviter tout péché véniel à cause de la corruption de l'appétit inférieur et sensible. De même, avant que la raison humaine, qui relève le péché mortel, ne soit réparée par la grâce sanctifiante, elle peut éviter chaque péché mortel pris en particulier et pendant un certain temps, car elle n'est pas nécessairement toujours en train de pécher, mais qu'elle demeure longtemps sans péché mortel, cela n'est pas possible. Et donc, il n'est pas possible d'éviter le péché véniel sans des grâces toutes particulières de l'homme, de Dieu, pardon. Donc, il faut bien relire. Voyez, ne pas séparer même l'exégèse de la théologie de l'Église. Saint Thomas explique bien qu'une fois qu'il a obtenu la grâce, l'homme ne peut pas faire le bien, éviter le péché, sans le secours d'une autre grâce qui le maintient dans l'état de grâce. Donc l'homme en état de grâce a besoin pour bien vivre dans la rectitude d'un autre secours de grâce. Donc il a, pour vivre avec rectitude, l'homme a doublement besoin du secours de Dieu, dit saint Thomas. Selon un premier mode, il lui faut un don habituel qui guérisse sa nature corrompue, et l'ayant guéri, l'élève aussi jusqu'à lui faire accomplir des œuvres qui méritent la vie éternelle, car cela dépasse le pouvoir de sa nature. Mais selon un second mode, l'homme a besoin du secours de la grâce par laquelle Dieu le meut à agir. Donc il lui faut un secours de grâce par lequel Dieu le meut à agir dans le bien. Donc, aucune créature ne peut produire un acte quelconque sinon en vertu de la motion divine, parce que Dieu nous maintient dans l'être. C'est lui qui nous maintient dans l'être. Donc, même dans l'état de gloire, quand la grâce sera parvenue à sa pleine perfection, l'homme aura encore besoin du secours divin. Ici-bas, il est vrai, la grâce est de quelque manière imparfaite en ce sens qu'elle ne guérit pas totalement l'homme. Donc l'homme en état de grâce ne peut pas, par ses propres forces, persévérer dans le bien. Il a donc besoin que la persévérance lui soit accordée par Dieu. Et l'étude du traité de la grâce de saint Thomas, qui est un des plus importants traités de la somme, nous maintient vraiment dans l'humilité. Donc la persévérance est infusée dans l'âme par Dieu avec la grâce, comme la continence et les autres vertus. Donc après avoir été justifié par la grâce, dit saint Thomas, il est nécessaire que l'homme demande à Dieu le don de la persévérance afin d'être préservé du mal jusqu'à la fin de sa vie. À beaucoup, en effet, la grâce est donnée sans qu'il leur soit donné de persévérer dans la grâce. Et cette question 109 est certainement une des plus belles de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Question 109 de la prima secundae. Attendez, la seconda, que je ne dise pas de bêtises. La prima secundae, c'est ça. Alors, continuons avec ce commentaire. Alors, que je retrouve où est-ce que j'en suis. J'ai perdu ma ligne là. Donc je répète cette phrase des pères, je regarde comme impossible, c'est Origène qui parle, que les extrémités de l'âme et ses parties inférieures ne contractent pas de souillure, quelle que soit la réputation de vertu et de perfection dont on jouit aux yeux des hommes. Donc les gens qui me disent, Monsieur l'abbé, moi je suis parfaitement capable de me préserver de tout péché, y compris les péchés véniels, et donc pas besoin de me confesser régulièrement, se trompent. Ils se trompent, et ils se trompent gravement, parce qu'ils jouent avec le feu, en tombant dans un péché de présomption. Il en est de même, dit Origène, il en est même beaucoup qui, après leur baptême, sont couverts des pieds jusqu'à la tête de la poussière de leur crime, mais ceux qui sont les véritables disciples n'ont pas besoin que d'avoir les pieds lavés. Évidemment, si j'ai vraiment le corps couvert de boue, là c'est le symbole du péché mortel,
J'ai impérativement besoin de la confession. Mais même si mes pieds seuls sont souillés par la poussière, symbole du péché véniel, je dois quand même impérativement me confesser pour justement me préserver du péché mortel. Car si je m'habitue à rester dans le péché véniel, en général, le péché véniel répété finit par ouvrir la porte du péché mortel. Donc ceux qui sont les véritables disciples du Christ n'ont pas besoin, n'ont d'autres besoins que d'avoir les pieds lavés. Maintenant, page 21. Notre Seigneur parle de la sorte à ses disciples parce qu'ils, étant déjà lavés, n'avaient plus besoin que de se laver les pieds. Car tant que l'homme vit au milieu du monde, il foule la terre avec ses affections qui sont comme les pieds de l'âme et contractent les souillures inévitables. Ça, c'est à cause du péché originel. N'oublions pas que les puissances de notre âme, l'intelligence, la volonté, l'irascible, le concupiscible, les puissances de notre âme sont blessées, même après le baptême. Le baptême offre en ôte le péché originel, nous donne la vertu de charité, mais le baptême ne peut pas remettre, si vous voulez, l'âme du baptisé dans l'état de justice originelle dans laquelle étaient Adam et Ève avant leur péché. Donc on a perdu définitivement les dons préternaturels, la possibilité, l'immortalité, la science infuse, l'intégrité sont définitivement perdus. Et les quatre puissances de notre âme, l'intelligence, la volonté, l'irascible et le concupiscible, sont blessées par des faiblesses, si vous voulez. Donc, je vous rappelle, il y a l'ignorance, la faiblesse, la malice et la concupiscence. Et ces blessures seront avec nous toute notre vie. Voilà pourquoi il nous faut utiliser les vertus cardinales de prudence, de justice, de force et de tempérance pour arriver à lutter contre ces conséquences du péché originel. Donc, il faut méditer sur ces passages des pères, justement pour nous maintenir dans la vertu d'humilité. Un texte de Saint Jean Chrysostome maintenant. Le Sauveur ne leur dit pas qu'ils sont purs, dans ce sens qu'ils soient purifiés de leurs péchés, puisque la victime qui devait les effacer n'était pas encore offerte. Mais il veut parler de la pureté de l'intelligence, car ils étaient déjà délivrés des erreurs judaïques. Il n'oublie pas que les apôtres venaient tous de la religion juive. Et qu'ils vont quitter cette religion juive, pardon, pour devenir si vous voulez, les piliers de la nouvelle religion qui est la religion catholique. Voilà pourquoi la religion juive, qui était la véritable religion avant le péché, avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, est aujourd'hui une religion mortifère. Mortifère, il serait péché grave pour un catholique de vouloir se sanctifier avec les rites de purification des Juifs, parce que cette religion n'est plus la véritable religion depuis que notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Il est venu d'abord pour sauver les Juifs, d'ailleurs, mais les Juifs, hélas, l'ont refusé et l'ont fait crucifier. Et à cause de ce déicide, si vous voulez, leur religion est devenue totalement mortifère. Aujourd'hui, ne peut plus être. Plus aller au ciel avec la religion juive, c'est absolument impossible. Voilà pourquoi il faut accepter notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison de l'apostolicité de l'Église. L'Église a toujours eu un apostolat, un sens apostolique, un sens évangélique pour aller évangéliser, comme disait le texte que j'avais cité tout à l'heure, évangéliser les biens du ciel, évangéliser la vertu pour annoncer au monde entier les vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Donc le Christ indique ici, encore un texte important, page 21, le Christ indique ici qu'une réforme de vie doit commencer par la tête, par les chefs, c'est-à-dire la tête, et qu'il devient alors plus facile de réformer ceux qui sont placés en dessous. La tête dirige les pieds, donc on commence par purifier la tête pour pouvoir purifier les pieds. Cette tête représente les chefs spirituels. Les chefs politiques aussi. Et si les chefs se convertissent, il est évident qu'il est beaucoup plus facile pour ceux qui sont placés en dessous d'eux de se convertir aussi. Rappelez-vous Saint Ignace de Loyola qui disait: Si j'ai prêché Si j'ai converti un prince, j'ai plus fait pour le royaume des cieux que si j'avais prêché 10 croisades. Et c'est vrai, parce qu'en général, lorsqu'un chef d'État, chef politique est saint, il sera beaucoup plus facile pour les gens qui sont sous son autorité d'être saints. Par contre, si les chefs d'État sont des voyous, c'est le cas aujourd'hui actuellement en France, c'est clair, il sera pratiquement impossible pour ceux qui habitent dans les citoyens de ce pays d'être se maintenir dans la vertu parce qu'ils auront constamment sous les yeux le mauvais exemple donné par leurs supérieurs politiques. C'est la même chose en matière religieuse. Il est évident que si le prêtre n'est pas là pour donner le bon exemple, comment voulez-vous que les gens puissent vivre en état de grâce? Donc le Christ indique ainsi qu'une réforme de vie doit commencer par la tête. Plusieurs pensent que notre Seigneur a lavé les pieds de Saint-Pierre en dernier et de Judas en premier pour assouplir son cœur, tenter d'assouplir son cœur, afin qu'il revienne sur son idée de trahison et aussi pour nous donner un exemple d'amour pour les ennemis, rendant le bien pour le mal envers ceux qui nous méprisent. Bon, tous les pères ne disent pas la même chose sur ce sujet, mais vous avez le droit de croire que notre Seigneur Jésus-Christ a d'abord commencé par laver les pieds de Judas pour lui donner le temps de réfléchir à ce qu'il allait faire et se sortir de cette volonté de trahir notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que si Judas avait fait comme Saint-Pierre, avait demandé pardon pour sa chute, eh bien il y aurait aujourd'hui un Saint Judas. Bon, seul Saint-Pierre, malheureusement, dans ce cas-là, a demandé pardon après avoir trahi 3 fois notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a entendu le coq chanter pour la 2e fois, il s'est rappelé cette phrase de notre Seigneur: avant que le coq l'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Et il sortit amèrement, il sortit en pleurant amèrement, dit l'Évangile. Et notre Seigneur a tout de suite pu pardonner Saint-Pierre, alors qu'il n'a pas pu pardonner le péché de Judas, parce que Judas n'a jamais regretté son péché. Il était dans un état, si vous voulez, il ne pouvait même plus lui demander pardon, parce qu'il ne croyait plus à la miséricorde du bon Dieu, c'est-à-dire au pouvoir de Dieu de pardonner son péché. En quelque sorte, Judas pensait que son péché était impardonnable, parce qu'il était trop grand. Donc il limitait le pouvoir de la divinité. Alors, voyons un petit peu le sens symbolique maintenant. D'abord, chez Origène et Saint Jérôme, en milieu de la page 21, le Christ lava les pieds des apôtres pour les préparer à la prédication de l'Évangile, selon ses paroles, qui sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager qui publie la bonne nouvelle de la paix. Donc, les pieds des apôtres, c'est les apôtres qui partent à la conquête du monde à pied. Ils vont marcher sur les chemins de Palestine, puis sur le chemin du monde entier pour prêcher l'Évangile, eh bien, représente justement l'évangélisation du globe et la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, une fois élevé de terre sur la croix, au sommet du calvaire, d'attirer tout à lui. Donc les pieds sont les symboles du message apostolique, du message évangélique qui est transmis au monde entier. Selon saint Ambroise, il enlève le péché originel par le baptême en lavant la tête, mais ici en lavant les pieds. Il enlève les restes du péché originel. Les mouvements de la concupiscence renforçant leurs pieds, c'est-à-dire leur affection, pour opérer une généreuse résistance aux appétits inférieurs. Donc par le lavement des pieds, notre Seigneur va renforcer le travail contre la concupiscence. Enfin, un texte de saint Augustin et de saint Bernard: par nos pieds qui marchent, les pieds qui marchent sur la terre sont signifiés les amours, les tâches et les défauts qui adhèrent à nos affections tant que nous sommes parmi les choses terrestres, comme la poussière ou la boue à nos pieds. Il n'est pas possible, j'ai déjà expliqué, de sortir dehors en sandales sans avoir la poussière sur les pieds. De la même façon, il n'est pas possible pour nous d'être indemne des contaminations, des mauvais amours, des tâches et des défauts du monde, parce que nous sommes par la force des choses partie de ce monde terrestre, des choses terrestres. Et donc il nous faut la confession, la communion et surtout la fuite des occasions du péché pour nous protéger. Continuons, j'essaie de terminer ce passage. Les 11 premiers versets du chapitre 13 de Saint-Luc. Alors, il y a un texte de Saint Ambroise. Saint Pierre était pur, mais devait laver son pied, car il avait hérité du péché du premier homme trompé par le serpent. Son pied est lavé pour que ses péchés héréditaires soient enlevés. Il fait allusion à la parole de Dieu au serpent, tu la meurtriras au talon. Le démon ainsi ne pourra pas le tromper de nouveau. Donc c'est une lavement des pieds, symbole aussi du baptême. Du baptême, symbole de la confession, symbole de cette purification de nos trois concupiscences, justement pour que nous puissions nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Le péché héréditaire dont il est ici parlé, fait mention ici, évidemment, c'est le péché originel. Bon. Rappelez-vous ce qu'avait annoncé notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu au démon, elle t'écrasera la tête et toi tu chercheras à la mordre, à la piquer au talon, à la mordre au talon. Donc c'est le combat annoncé entre les enfants de la lumière, les enfants de la Sainte Vierge Marie et les enfants du monde. Je mettrai une inimitié entre ta race et la sienne. C'est entre ta race, la race des enfants du démon, et la race de la Sainte Vierge Marie. À nous d'être dans ce combat terrible, d'être dans la bonne armée. Rappelez-vous, les deux étendards de Saint Ignace de Loyola, l'étendard du monde, avec les trois mots inscrits sur cet étendard, liberté, égalité, fraternité, et l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, avec trois autres mots, pauvreté, chasteté, obéissance. Autre texte, ceux qui vont être baptisés sont pieds nus, comme un signe d'humilité. Car ce que Saint Augustin appelle l'humilité des pieds, c'est ce que Saint Augustin appelle l'humilité des pieds. Bon. Par la marche sur la terre, on écrase la poussière. Donc c'est le symbole de l'humilité qui écrase l'orgueil du monde. Les pieds des apôtres sont donc lavés, car si les péchés véniels ne sont pas enlevés par la pénitence, ils ne recevront pas la Sainte Eucharistie. Ils n'entreront pas au paradis, car rien d'impur ne peut y entrer. C'est Saint Cyprien ici qui parle. Donc il ne faut pas simplement se purifier des péchés mortels, de la boue qui couvre le corps, mais aussi de la poussière qui couvre les pieds, à savoir des péchés véniels. Le péché véniel, c'est déjà un acte qui quelque chose qui déplaît au bon Dieu. Quand on aime le bon Dieu, on ne va pas lui déplaire, même en petites choses. Un époux qui aime son épouse doit faire attention de ne pas lui déplaire, même dans les plus petits détails. Autre texte, cette fois-ci, Saint Jean Chrysostome et Saint Cyril. Si vous ne recevez pas cette leçon d'humilité que je vous donne en vous lavant les pieds, vous n'aurez point de part avec moi, car seuls les humbles atteignent la grâce et la gloire de Dieu. Bienheureux les humbles, les pauvres en esprit. N'oubliez pas que la concupiscence qui nous éloigne le plus de Dieu, ce n'est pas la concupiscence de la chair, ni la concupiscence des yeux, mais la concupiscence de l'orgueil. Un péché d'orgueil, accepté pleinement, totalement dans notre âme, est en soi bien plus grave qu'un péché de fornication ou d'adultère. Bien que ces péchés soient gravissimes, c'est sûr, mais cependant, attention, le péché d'orgueil est encore plus grave. Les péchés d'orgueil sont aussi beaucoup plus dangereux parce qu'on ne voit pas toujours le danger des péchés d'orgueil, alors que quelqu'un qui a la bonne volonté voit facilement le danger des péchés graves contre la pureté. Enfin, dernier texte. Le Christ rappelle aux apôtres la nécessité d'une purification intérieure obtenue par la contrition qui expie les péchés véniels. Donc le lavement des pieds est le symbole de cette contrition qui est nécessaire. N'oubliez pas qu'un acte de contrition parfaite efface tous les péchés, et qu'un acte de contrition même imparfaite peut effacer les péchés véniels. Simple fait, par exemple, que vous preniez l'eau bénite avant de rentrer dans la chapelle, faites un beau signe de croix avec l'eau bénite, ça peut déjà effacer les péchés véniels qui encombrent notre âme. Parce que c'est déjà un acte, même si c'est prendre de l'eau bénite, ce n'est pas un sacrement, c'est un sacramental. Cependant, le sacramental a déjà le pouvoir, la force de pardonner les péchés véniels. Voilà, donc vous voyez ce passage, c'est 11 premiers versets du chapitre 13 de Saint Jean. C'est vraiment l'ouverture de la Passion. Et ce sont des textes d'une très très grande pureté, une très grande théologie, très haute théologie. Donc lisez-les, je vous conseille beaucoup de relire le commentaire. Beaucoup de gens m'ont dit, on m'a dit. entendu ça plusieurs fois, qu'il fallait souvent qu'ils écoutent deux fois les conférences d'exégèse, parce que justement les textes des pères sont quand même assez exigeants et très peuvent pas forcément être compris totalement à la première lecture, qu'il faut une deuxième lecture. Il y en a un qui dit, vous savez, moi je suis obligé d'écouter deux fois les cours d'exégèse pour pouvoir les comprendre. Voilà, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.